Vous écoutez, on lit pour vous.
Le retour à la masculinité traditionnelle nuit à la santé mentale des hommes. Un texte de la rédaction paru le 19 mars 2025 dans pieuvre.ca. En plein courant de masculinité toxique et de retour au rôle genré traditionnel, une spécialiste de la psychologie sociale, la Dr. Orly Berkett de l'Université Ben-Gourion du Negev, soutient qu'un tel recul est carrément nuisible pour les hommes à l'avant-plan de ce mouvement. De l'avis de cette chercheuse, qui a récemment publié un article intitulé « Lost Opportunities, How Gendered Arrangements Harm Men », en collaboration avec la professeure Susan Fisk de l'Université Princeton, si les conséquences des rôles genrés traditionnels pour les femmes sont plus claires et ont fait l'objet de plus de recherches, on en sait peu sur les impacts négatifs pour les hommes, même si l'on pourrait croire qu'ils ont bien des choses à gagner avec de telles structures traditionnelles. Selon ces deux spécialistes, ces structures genrées peuvent ainsi nuire aux relations, à la carrière et à la santé des hommes. Par exemple, écrivent-elles dans un article récemment publié dans Proceedings of the National Academy of Sciences, les hommes sont sous pression pour correspondre aux normes des vrais mâles en priorisant leur statut, la domination et le contrôle des émotions. Cependant, de tels rôles vont très largement accroître le stress ressenti par les hommes et ont démontré qu'ils menaient à des impacts négatifs sur la santé physique et mentale. Les hommes vont aussi bien souvent rejeter les rôles davantage articulés autour de la communauté, écrivent encore les deux spécialistes, parce qu'ils sont perçus comme étant trop féminins. Cependant, de tels rôles enrichissent l'existence et contribuent à une meilleure qualité de vie. Malgré tout, disent-elles, des hommes refusent volontairement de jouer ces rôles centraux dans la vie personnelle, familiale et communautaire. Enfin, le sexisme hostile ruine les relations personnelles et relationnelles des hommes avec les femmes, que ce soit en raison d'un manque de confiance ou parce qu'ils s'avèrent incapables d'accorder de la valeur aux femmes, ou encore de faire équipe avec elles, écrivent les deux chercheuses. C'était « Le retour à la masculinité traditionnelle nuit à la santé mentale des hommes », un texte de la rédaction paru le 19 mars 2025 dans pieuvre.ca.
Un répit repensé pour mieux aider, un texte de Fabienne Terkaeff de la Presse canadienne, paru le 20 mars 2025 dans Radio-Canada. Depuis septembre 2024, un service de répit flexible a été mis en place dans les MRC de la Métis et de Rimouski-Nagette. Le Centre d'action bénévole de la Métis met en relation des bénévoles avec des proches aidants de personnes aînées qui ont un début de troubles neurocognitifs. Le service permet ainsi aux familles de faire une pause dans leur quotidien. Pomme, banane, poire. Dans sa cuisine, Francine Guimond fait l'inventaire des fruits qu'elle aimerait aller acheter à l'épicerie. Elle fait un tour d'horizon des aliments dont elle a besoin, sous le regard et la prise de notes de Vanessa Turcotte. La jeune femme est étudiante au baccalauréat en psychologie et elle vient bénévolement apporter son aide de manière hebdomadaire à la dame. Francine Guimond la voit arriver, comme chaque semaine, avec enthousiasme. « Je suis autonome, je suis bien entourée. Mais c'est d'être capable de sortir, » explique-t-elle. Veuve depuis plus d'un an, la Rimouskoise ne peut plus conduire en raison de premiers signes de troubles neurocognitifs. Vanessa Turcotte l'emmène surtout faire son épicerie, mais elle peut tout aussi bien l'accompagner au restaurant ou acheter un manteau. Le service de répit flexible fait partie d'un vaste projet de recherche-action intitulé « Bien vieillir chez soi ». Le programme vise à aider les aînés à vivre le plus longtemps possible et de façon sécuritaire dans leur domicile. Les proches aidants aussi soutenus par ce projet pilote. Le rôle de proche aidant est très exténuant émotionnellement, psychologiquement et physiquement, qu'on soit l'intervenant au Centre d'action bénévole de l'Amitis, Stéphane Massé. Ce répit flexible vient enlever un peu de pression sur les épaules des proches aidants. Dit Stéphane Massé, intervenant au Centre d'action bénévole de l'Amitis. La fille de Francine Guimond a sauté à pieds joints dans ce projet. Jennifer Murray avoue volontiers qu'elle déteste faire les courses. Elle laisse donc cette tâche entre les mains de Vanessa Turcotte. Ça fait en sorte que le temps que je peux allouer à maman est plus précieux et plus apprécié que d'aller faire les courses, s'exclame la proche aidante. Lorsqu'elle vient visiter sa mère, c'est pour discuter, jouer au Scrabble ou partager un repas. Ça permet vraiment de passer plus de temps de qualité, puis être sûre qu'elle a tout ce qu'elle a besoin, aussi. Dit Jennifer Murray, proche aidante. Vanessa Turcotte y trouve aussi son compte. « Je voulais donner à ma communauté, et là, j'aide deux personnes. Je suis là pour la personne âgée, et je donne du répit à la personne proche aidante », argumente la jeune femme. Chaque semaine, elle passe 2 à 3 heures avec Francine Guimond. On s'adapte selon ce que la personne désire et a besoin cette semaine-là. C'est autant flexible sur les jours et les horaires que sur les activités qu'on fait, ajoute la bénévole. Un lien de confiance s'est développé au fil du temps entre la famille et l'intervenante. 8 jumelages, d'autres à venir. Les jumelages mis en place par le Centre d'action bénévole de la Métis sont d'une durée de 15 semaines. À l'issue de cette période, ils pourront être prolongés, arrêtés ou renouvelés avec d'autres personnes. Des familles sont actuellement en attente d'un jumelage. Les bénévoles peuvent être des citoyens de la communauté ou des étudiants en travail social ou en psychologie. L'organisme s'occupe de jumeler les intervenants avec les familles. On assoit tout le monde autour de la table et on fait vraiment connaissance. Ils se présentent, d'où ils viennent, ce qu'ils aiment faire dans la vie, énumère Stéphane Massé. Le jumelage entre Francine Guimond, Vanessa Turcotte et Jennifer Murray se termine dans le courant du mois d'avril. La bénévole est en réflexion et ne sait pas encore si elle renouvellera son implication au sein du projet de répit flexible. Mais pour Francine Guimond, il n'y a aucun doute. J'ai tellement apprécié. C'est mon ami pour toujours, s'exclame la dame. Le projet pilote de répit flexible doit se terminer en mars 2026. L'objectif est de pérenniser le service après cette date. C'était un répit repensé pour mieux aider, un texte de Fabienne Terkaef de la Presse canadienne, paru le 20 mars 2025 dans Radio-Canada.
Les écoles spécialisées pour enfants handicapés devraient-elles être à l'abri des grèves? Un texte d'Isabelle Porter, paru le 19 mars 2025 dans Le Devoir. Les services offerts par les écoles spécialisées pour enfants handicapés devraient être considérés comme des services essentiels, a soutenu récemment un expert consulté en lien avec le projet de loi 89 sur les conflits de travail. Les jeunes handicapés sont les plus susceptibles de régresser sur le plan des apprentissages et des comportements lors d'un arrêt prolongé, est venu dire Égide Royer, psychologue et spécialiste de la réussite scolaire. Par le terme « handicapé », le chercheur réfère tant aux jeunes qui ont un handicap physique ou mental qu'à ceux en difficulté d'apprentissage. L'interruption de la routine ne crée pas des traumatismes, mais fait en sorte qu'ils vont perdre des acquis, a-t-il dit. L'entraînement d'un jeune à la propreté peut ainsi devoir être refait. Pour un autre, c'est une nouvelle compréhension des lettres qui peut être perdue. M. Royer présentait récemment un mémoire dans le cadre de l'étude du projet de loi 89 qui vise à limiter les répercussions négatives des conflits de travail au Québec. Le ministre qui l'a présenté, Jean Boulet, propose notamment que certains services éducatifs puissent être considérés comme essentiels et donc être maintenus lors de grèves ou de lock-out. L'intervention de M. Royer est le premier appui au projet de loi reçu par le gouvernement en provenance de l'extérieur des milieux patronaux. Ce dernier estime en fait que le ministre devrait aller encore plus loin. Les syndicats y sont vigoureusement opposés. Dans les écoles spécialisées seulement. Le professeur Royer ne propose pas d'action sur l'ensemble des services offerts aux enfants handicapés. Mieux vaut cibler d'abord les écoles spécialisées pour enfants handicapés, estime-t-il. Le Québec compte une douzaine de ces écoles, qui sont privées, mais subventionnées par l'État. M. Royer évalue que 7000 enfants bénéficient de leurs services, soit 13% des jeunes élèves handicapés. Par contre, il doute que les services offerts à ces enfants dans les écoles ordinaires, les classes spécialisées notamment, puissent intégrer la liste des services essentiels en raison du contexte stressant que cela pourrait causer. Je vois mal comment des enfants lourdement handicapés vont traverser une ligne de piquetage pour se rendre en classe, a-t-il fait valoir. Dans sa présentation, le chercheur a souligné que la Coalition des parents d'enfants à besoins particuliers du Québec avait fait une demande en ce sens lors de la dernière grève en éducation. Il a aussi mentionné que lors de la pandémie, le comité d'experts en éducation qui conseillait le ministre, dont il faisait partie, avait recommandé que ces écoles spécialisées soient les dernières à fermer et les premières à ouvrir. C'était « Les écoles spécialisées pour enfants handicapés devraient-elles être à l'abri des grèves? » Un texte d'Isabelle Porter, paru le 19 mars 2025 dans Le Devoir.
Musicothérapie, il apprend à ne pas se mutiler, un texte de Déborah Saint-Victor, paru le 18 mars 2025 dans Radio-Canada. Selon l'Association canadienne des musicothérapeutes, la musicothérapie utilise la musique, pratiquée par des professionnels certifiés, pour favoriser le bien-être et le développement en répondant aux besoins émotionnels, cognitifs, physiques et sociaux, de manière éthique et sécuritaire. En ce mois de sensibilisation à la musicothérapie, des experts et des parents partagent les bienfaits de la musique sur la santé et le bien-être. Cependant, selon eux, malgré ses effets positifs reconnus, la musicothérapie reste difficile d'accès, car elle n'est pas couverte par la loi canadienne sur la santé. Kimberly Samuel, musicothérapeute depuis 13 ans, travaille avec une clientèle à Sudbury, allant de 2 ans à 101 ans, et traite des besoins variés comme l'autisme, la maladie d'Alzheimer et la paralysie cérébrale, avec des instruments tels que la guitare, des percussions et des instruments sensoriels comme le cabasa et le tambour océanique. Elle stimule, entre autres, la communication et régule les émotions de ses patients. Kimberly Samuel soutient que ces méthodes ont permis des progrès significatifs, comme celui d'un enfant qui a appris à exprimer ses préférences grâce à la musique. Il apprend à ne pas se mutiler. S'il est très frustré, il se cogne la tête. Il porte souvent un casque. Dit Kimberly Samuel, musicothérapeute. Elle évoque également un patient qui, après avoir appris à réguler ses émotions grâce à la musique, a réduit ses comportements autodestructeurs et a amélioré ses interactions sociales. Un autre exemple, est celui d'un garçon neurodivergent qui, après 8 semaines de musicothérapie, a développé de meilleures compétences sociales et un vocabulaire enrichi. Cependant, Kimberly Samuel déplore la difficulté d'accès à ses soins car ils ne sont pas couverts par la loi canadienne sur la santé. Dans la plupart des cas, les parents doivent payer de leur poche, regrette celle qui est aussi psychothérapeute. Ils peuvent aussi être pris en charge par certains régimes privés, dit-elle, ajoutant que, grâce à son statut de psychothérapeute, certains parents qui ont des assurances privées peuvent réclamer les soins sous la psychothérapie. La musicothérapie, un soin transformateur mais difficilement accessible. Roxane Bois est la mère de Sébastien, un enfant non-verbal atteint d'une anomalie chromosomique et d'un tonus musculaire faible. Il est passionné de musique. Grâce aux séances avec Kimberly, ses sons sont plus joyeux et ses yeux s'illuminent, dit Roxane Bois, mère de Sébastien. Lorsqu'on passe devant lui, il vocalise pour attirer notre attention, que ce soit pour des besoins non satisfaits, d'une manière un peu plaintive ou grincheuse, mais aussi positivement pour les salutations et les interactions, dit-elle. Quant à Stacy Morel, elle raconte à son tour comment la musicothérapie a aidé son fils neurodivergent de 3 ans et demi à apprendre à partager avec son petit frère. À mon grand étonnement, non seulement mes garçons partageaient et attendaient leur tour avec plaisir, mais ils avaient tous deux acquis des compétences linguistiques supplémentaires, explique-t-elle. Kelsey Ouellette, mère de Séverin, un enfant autiste de 2 ans non-verbal, a également vu des progrès en communication et interaction sociale après quelques mois de musicothérapie. Séverin était très renfermé et ne remarquait même pas les autres dans la pièce, explique-t-elle. Après environ la 3e ou 4e séance avec Kim, il a commencé à interagir davantage avec elle. Maintenant, il la salue à la porte. Il a même essayé de répéter certains de ses mots. Il est très impliqué et devient extrêmement heureux, observe-t-elle. Kelsey Ouellette regrette cependant de devoir payer elle-même les séances. Elle déplore aussi les délais d'attente pour accéder au programme de financement pour les familles d'enfants déficients. « Je sais que certaines personnes sont assez chanceuses d'avoir reçu le financement de l'accès au POSA, mais la liste d'attente dure des années. Et je sais qu'un grand nombre d'enfants n'ont même plus accès au programme ni au financement avant de les recevoir. » Selon l'Association canadienne des musicothérapeutes, les frais de prestation varient de 35 à 115 $ par heure. Les bienfaits concrets de la musicothérapie sur les enfants et les adultes. Rebecca Barnstaple, enseignante à l'Université de Guelph, dirige un programme qui étudie l'impact de la musique et des arts sur la santé et le bien-être. Des personnes souffrant de douleurs chroniques ont toutes indiqué que la musique les transportait vraiment et les transformait, dit-elle. Dès que vous mettez de la musique, les enfants ont envie de rebondir, de tourner, de bouger et de s'étirer. Cela fait vraiment partie de notre réponse innée à la musique, dit Rebecca Barnstaple, enseignante. Ce serait formidable si la musicothérapie était couverte, car elle touche de nombreux aspects de notre santé et de notre bien-être, n'a aucun effet secondaire néfaste, et est souvent moins coûteuse que les médicaments, conclut l'enseignante. Divers programmes soutiennent les familles, mais les défis persistent. Dans un courriel, le ministère de la Santé a indiqué que selon la loi sur l'assurance maladie, seuls les praticiens autorisés peuvent être remboursés pour leurs services par le régime d'assurance santé de l'Ontario. Les musicothérapeutes ne sont pas des praticiens autorisés, donc leurs services ne sont pas couverts. Cependant, dans certains hôpitaux en Ontario, leurs services peuvent être couverts lorsqu'ils sont jugés médicalement nécessaires, précise le ministère. Pour sa part, le ministère des Services à l'enfance et des Services sociaux et communautaires rappelle dans un courriel qu'en 2023-2024, 36 400 enfants ont bénéficié du programme des services spéciaux à domicile, SSAH. Ledit ministère stipule que, grâce à ce programme, une famille peut engager un professionnel pour aider son enfant à acquérir de nouvelles compétences ou pour l'amélioration de celles déjà présentes. En 2025, le gouvernement augmentera de 120 millions de dollars l'investissement dans le Programme ontarien des services en matière d'autisme, POSA, pour soutenir les enfants ayant un trouble du spectre de l'autisme, ajoute le ministère. Radio-Canada n'a pas obtenu les informations demandées sur les délais des listes d'attente pour accéder aux fonds du SSAH et du POSA. C'était Musicothérapie, il apprend à ne pas se mutiler, un texte de Déborah Saint-Victor, paru le 18 mars 2025 dans Radio-Canada.
Il compétitionne en BMX en ayant une paralysie cérébrale. Un texte de Daniela Vargas Rojas, paru le 16 mars 2025 dans Le Canada français. Zachary Lessard, un garçon de 8 ans né avec une paralysie cérébrale, a accompli son rêve de compétitionner pour une équipe de BMX. Cet exploit a été possible grâce à une chirurgie. L'intervention d'une durée de 10 heures a permis à ce passionné de vélo d'améliorer son équilibre et de mieux contrôler ses mouvements. Aujourd'hui, un an après l'opération et plus de 6 mois de réadaptation intensive, Zachary Lessard est l'un des seuls enfants vivant avec un handicap qui compétitionne dans les championnats de BMX au Québec. Originaire de Sainte-Anne-de-Sabrevoix, Zachary Lessard a commencé ses leçons de vélo à l'âge de 4 ans. Monté sur son vélo trotteur, le garçon s'amusait à garder son équilibre et à descendre les pentes à l'aide de ses deux jambes. Accompagné de ses frères, qui pratiquent aussi le BMX, il a même participé à des compétitions à travers le Québec. Citation : Zachary se débrouillait très bien. Il était compétitif. Je pense que lorsqu'il était en compétition, Zachary ne sentait pas tellement son handicap. Il n'avait pas besoin de courir, mais juste de se pousser, et il était très fonctionnel. Par contre, dès l'âge de 5 ou 6 ans, les enfants qui pratiquent ce sport doivent passer au BMX. C'était un enjeu. Il a travaillé très fort et il a réussi à apprendre à pédaler malgré son atteinte au bas du corps. On a atteint un niveau et on a stagné. Fin de citation, raconte Maxime Lessard, le père de Zachary. L'opération. Malgré les nombreuses séances de réadaptation, Zachary ne faisait plus de progrès. À l'âge de 7 ans et demi, le garçon passe une série de tests qui le qualifient pour une intervention chirurgicale appelée rhizotomie dorsale sélective. L'opération vise à sectionner certains nerfs de la colonne vertébrale pour réduire la spasticité et améliorer sa mobilité. Citation : En fait, pendant l'opération, on ne coupe pas complètement les nerfs qui amènent à la contraction. C'est plus les nerfs sensitifs qui sont coupés et ceux-ci vont couper la boucle réflexe qui cause les spasmes. L'opération ne lui permet pas de faire des mouvements qu'il ne contrôlait pas avant. Toutefois, il a réussi à améliorer la nage, à marcher plus droit, à lever et dissocier les jambes, à améliorer son équilibre et à faire des mouvements plus précis. Fin de citation, mentionne Ariane Hébergeaudouin, physiothérapeute au Centre intégré de santé et de services sociaux, CIS, de la Montérégie-Ouest, qui s'est chargée de la réadaptation de Zachary en compagnie de sa collègue Isabelle Lalonde. La réadaptation. Pour réussir à compétitionner en BMX, Zachary a suivi des séances de réadaptation à l'hôpital pendant 2 mois et de rééducation intensive en physiothérapie pendant 6 mois, à raison de 2 séances par semaine. À la suite de la chirurgie, il a dû réapprendre à s'asseoir, à se tenir debout, à marcher, à se lever et à monter les escaliers. Citation. J'aime ça faire du BMX parce que je me sens comme les enfants normaux. Je veux aller vite et c'est cool. Quand on a fait l'opération, je n'avais pas peur. Je trouvais ça cool parce qu'après, je pouvais faire du BMX. Fin de citation, mentionne Zachary Lessard avec enthousiasme. Aujourd'hui, le garçon fait partie du club de BMX du Haut-Richelieu et de l'écurie Race Inc. Cette année, son objectif est de compétitionner dans toutes les épreuves officielles de BMX sans l'aide de son père lors du départ. Maxime Lessard affirme que cette opération a permis à son fils de reprendre confiance en lui. Citation. Je suis content de voir mon fils vivre sa passion et le voir faire de la compétition dans un sport extrême comme tous les autres enfants. Je suis sûr qu'il est fier de voir ses efforts récompensés. Fin de citation, conclut M. Lessard. La paralysie cérébrale. La famille Lessard-Blouin a appris que Zachary était atteint d'une sorte de diplégie spastique 2 ans après sa naissance. La diplégie spastique est un type de paralysie cérébrale qui touche les 2 membres inférieurs du corps. Citation. La paralysie cérébrale atteint les personnes à différents niveaux. Le premier niveau est le plus léger et le niveau 5 le plus intense. Dans le cas de Zachary, il est au niveau 1 de l'échelle. La diplégie spastique provoque des contractions musculaires qui sont involontaires. Le cerveau n'a pas demandé ces contractions. Toutefois, plus il y a de tonus musculaire, plus les spasmes sont involontaires. Ça provoque un manque de contrôle avec la coordination des jambes. Fin de citation, explique Ariane Hébert-Jaudouin. Rappelons que la paralysie cérébrale est un terme général qui sert à décrire un groupe de troubles chroniques qui affectent les mouvements du corps et la coordination musculaire. Elle apparaît à la naissance ou lors de la petite enfance et ne s'aggrave généralement pas au fil du temps. C'était « Il compétitionne en BMX en ayant une paralysie cérébrale », un texte de Daniela Vargas-Rojas, paru le 16 mars 2025 dans Le Canada français.